lui demander qu'il prenne nos mains et qu'il nous entraîne avec lui. Vous voulez vous lever avec moi ?
Et on va prier.
Seigneur, nous sommes devant toi comme des enfants autour de la table du Père. Nous avons besoin de ton pain de vie, de paroles de vie. Nous avons besoin de secours, car la vie ne peut se faire sans le Maître, sans toi, sans ta parole, tes conseils, ta force en nous. Seigneur, nous venons ouvrir notre cœur pour entendre cet appel de Jésus. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Merci pour cet appel qui ne nous trompera jamais. Amen. Je vous invite à vous asseoir, chers amis, et je vous souhaite la bienvenue. Et je le répète, comme ce matin, félicitations pour votre persévérance. Vous faites partie du marathon vert. Vous avez tenu à assister à l'évangile d'aujourd'hui. Eh bien, c'est magnifique. Et je voudrais vous conduire à cet évangile dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 28. Tout de suite, Matthieu 28, c'est la résurrection. C'est Pâques. Alors, écoutons bien, si vous n'avez pas la Bible, vous écoutez. La Bible, ça se lit et ça s'entend. Mais quand on lit, on écoute aussi. Le cœur a besoin d'entendre pour croire. Quand on bouche les oreilles et le cœur, on n'entend plus rien. C'est le docteur qui me disait, il faut ouvrir ses oreillettes. Les oreillettes du cœur. Eh oui, c'était une très belle parole. Nous allons lire ensemble Matthieu, chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie, laquelle pense peut-être à la tante de Jésus, allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Ouh, c'est vif, un peu terrifiant. Et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes qui gardaient la tombe tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Voyez-vous, on peut avoir de la crainte et de la joie. Et elles coururent porter aux disciples la nouvelle aux disciples, et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. » « Venez, dit l'ange, voyez, regardez. » La première parole de Dieu dans la Bible, que la lumière, comment ? Soit. Ça veut dire que la lumière vienne, que la lumière paraisse. Dieu appelle la lumière. Je vous dis que je parlerai aujourd'hui sur l'appel de Jésus. Il appelle la lumière.
Il appelle les plantes,
il appelle les animaux, les étoiles, le soleil, la lune, comme un chef d'orchestre, la lumière, les étoiles, les animaux, les plantes, il appelle et on vient. Tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, a été appelé par Dieu. C'est le maître de l'univers et de vos corps. Et avec l'homme, pas automatique. Avec l'homme, c'est un peu différent. Il ne dit pas le Seigneur, Pierre, Jacques ou Jean, pouf, sortez de la terre, entrez dans le ciel. Il y a un appel au cœur qui nous laisse la liberté de dire oui, la liberté de dire non. Avec l'être humain, Dieu appelle, oui, mais nous laisse le choix de la réponse. Alors des réponses, je peux vous en donner des dizaines. Ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas l'âge, j'ai autre chose à faire, je suis fatigué, j'ai des voisins méchants, des enfants qui m'oublient. On est tous dans, comme les apôtres, en train de ramer sur une mer démontée, mais le Seigneur nous appelle et attend une réponse. Comme Abraham, il a dit à Abraham, il a appelé Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, c'est-à-dire quitte un pays où il n'y a que des idoles, de la violence, du non-sens. Quitte ce pays pour un projet que Dieu va te montrer, pour aller vers un pays que Dieu va te montrer. Regardez ce Dieu infiniment grand, comment il nous respecte. Il ne dit pas à tous les bébés qui naissent aujourd'hui, tu seras chrétien, tu seras chrétien, tu seras chrétien. Il nous respecte. Il nous appelle et nous, on répond, si on veut. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, un homme a dit, je ne veux pas de Dieu. J'étais pasteur, je ne pouvais pas faire plus. Le Seigneur nous appelle, mais quand on dit oui, il est capable de nous conduire comme il a conduit Abraham sur les routes pour un projet qui dépasse tout ce que l'homme peut imaginer et produire sur la terre. Jésus aussi, il a pris ce chemin. Il a quitté la maison de son père, il a quitté sa patrie céleste. Il a été envoyé, il a été appelé par son Père à venir sur terre. Et là, il est mort, vous le savez, et il est ressuscité. Et un ange, on l'a lu tout à l'heure, un ange est descendu et il a roulé la pierre. Pas pour que Jésus sorte du tombeau. Il était déjà sorti du tombeau. L'ange a roulé la pierre pour que les femmes et les apôtres voit qu'il n'est plus là. Le tombeau, il est vide. Regardez, venez, regardez, il est ressuscité. Il nous appelle à regarder plus loin. Parce qu'on manque d'ambition parfois sur la terre. On travaille pour avoir de l'argent, puis avoir une famille, puis avoir de la santé, puis après avoir la retraite, puis après, faire un petit voyage, puis après. Après quoi? Le Seigneur dit, regardez, votre avenir, il dépasse les limites de la terre. Dieu ne m'étonne pas. Ce Dieu qui a créé l'univers, la résurrection, qui a créé nos vies, eh bien, Dieu qui fait tout surgir par une parole, venez, la lumière, venez. Ce Dieu-là, il ne m'étonne pas. Si Dieu ne faisait rien, ça m'étonnerait, ça. Je serais choqué que Dieu ne fasse rien. Mais Dieu est à l'œuvre, il appelle, et il attend des résultats. Il attend que je vienne. Il attend des transformations en chacune de nos vies. Nous sommes, vous et moi, au bord de ce tombeau de Jésus. Dans quelques jours, c'est la Toussaint. Et beaucoup de gens iront sur les tombes pour penser, réfléchir, prier certainement, et puis mettre des fleurs. Puis là, pour la Toussaint, Jésus nous dit, eh bien, regardez ce tombeau qui est vide. Parce que ce tombeau, il est comme une porte ouverte sur des nouveaux cieux, une nouvelle terre, une nouvelle espérance. Ça ne s'arrête pas là. Dieu avait dit à Abraham, viens, va dans le pays que je te montrerai. Ce pays, il est là, dans le tombeau. Il n'est plus là, Jésus. Et la promesse d'Abraham, c'était que nous serions un jour, toujours avec Jésus. Parce qu'un jour, il nous faudra partir aussi. On ne peut pas vivre indéfiniment sur terre. Il y a des gens avant nous qui sont partis. Il y a des gens après nous qui partiront. Et nous aussi, on ne peut pas vivre indéfiniment. Le Seigneur dit, regardez, je vous ouvre une porte, la porte de l'après, la porte de la résurrection. Dans le journal L'Express, il y a quelques mois, on a lu un titre, « Comment être jeune jusqu'à 100 ans ?» Et après, si c'est pour mourir juste après, ça sert à quoi ? De rester jeune en jean avec... Non, ça sert à quoi ? C'est après. L'appel du Christ nous dit, tu iras plus loin. Il disait un jour à quelqu'un de très riche, viens, suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. C'est sérieux. Viens, suis-moi, appelle. Il y a autre chose. Il faut dire la vérité aux vivants. Je me souviens, il y a déjà longtemps, on disait qu'il ne faut pas dire la vérité aux mourants. Il ne faut pas les choquer, il ne faut pas les traumatiser, il ne faut pas les épouvanter. Mais mes amis, il faut dire la vérité aux vivants, il faut dire la vérité aux mourants. Le Seigneur nous attend là-haut pour une autre vie. Amen. Dieu ne nous laisse pas passer la vie avec des enfantillages, avec des westerns, avec des petits voyages. Dieu veut nous dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'il nous appelle à venir chez lui, dans sa maison, à sa table. Encore un exemple. Jésus traverse la ville de Jéricho, Jéricho-sur-Mer, pratiquement, belle ville. Il traverse cette ville de Jéricho, et là, il y a un aveugle, un malheureux, qui est assis dans sa crasse. Et Jésus l'appelle. Enfin, c'est lui d'abord qui a appelé Jésus. « Aie pitié de moi, aie pitié de moi !» Il implore la pitié de Jésus. Et Jésus s'arrête et il dit « Appelez-le ! Appelez-le !» Alors, les apôtres, ils obéissent, ils ne comprennent pas trop. Lève-toi, il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Je vous le dis à vous aussi. Lève-toi, il t'appelle. Et quand le pauvre aveugle s'est mis debout, en quittant son vieux manteau, qui sentait sûrement pas bon, il était devant Jésus aveugle, il ne voyait pas. Et Jésus lui a dit, « Que veux-tu que je te fasse ? Appelle. » Jésus l'appelle à prier. Et quand Jésus lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» C'est un flot de paroles, c'est un appel qui passe dans son cœur, un appel qui transforme, un appel qui crée, un appel qui redonne vie, du tonus, de la joie, de l'espérance, de la force. « Que veux-tu que je te fasse ?» Ce qui veut dire « Ce que tu veux, je te le donne. » Oh, il aurait pu dire « Je voudrais 100 euros. » Il a bien fait de dire, je voudrais des yeux pour voir, que je recouvre la vue. Et Bartimée a été guéri. Et il a suivi Jésus. Eh bien, mes amis, Jésus nous appelle la dignité de l'être humain. C'est un être humain relevé. C'est un être humain élevé. Un être humain transformé. Un être humain assis à sa place réservée, tout là-haut, avec Jésus. Ça, c'est la dignité de l'être humain. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le succès, ce n'est pas la gloire. La dignité, c'est être avec Dieu, à notre place, pour toujours. Sinon, Dieu n'est pas crédible. Si Dieu nous appelle à aller à l'église tous les dimanches et à prier tous les jours pour nous donner des petits bonbons, c'est pas crédible. Ce qui est crédible, c'est que nous mourrons, certes, mais notre place est assurée à côté des autres dans le ciel, en compagnie des prophètes et des apôtres, et de Marie et de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Il t'appelle. Encore à Jéricho. Voilà que Jéricho, c'est une ville où il y a des blessés. C'est là qu'a eu lieu l'assassinat, l'attentat contre ce malheureux qui descendait à Jéricho. Il a été attaqué en route par des voyous et il a été laissé à demi-mort, dans son sang. À Jéricho, il y a tout. À Rennes, il y a de tout. À Jéricho, il y a des gens blessés, il y a des bons samaritains, il y a des charognards. C'est-à-dire des gens qui profitent de tout. Il y a des gens qui profitent de tout le système et de la situation des malheureux et des charognards, je les appelle. À Jéricho, il y a des bons, il y a des brutes, il y a des truands, il y a tout. Vous connaissez ce film, Le bon, la brute et le truand. Et puis il y a un homme aussi à Jéricho, Zachée. Vous connaissez ? Il cherche à voir qui est Jésus. Et il monte dans un arbre parce qu'il y a beaucoup de monde, puis il est tout petit. Comme quoi, parfois, il y a certaines richesses qui nous rapetissent. Il monte dans l'arbre pour voir qui est Jésus. Et Jésus, il passe là, au même moment, et il lève les yeux, et il voit Zachée. Et lui dit, hâte-toi de descendre, dépêche-toi, vite, il faut que je demeure dans ta maison. Appelle, viens, comme Abraham, comme l'aveugle Bartimée, Zachée, un homme tout rouillé par ses petits mensonges, tout rouillé par toutes ses combines, sa marche en crabe, il ne marche pas droit. C'est un homme qui ne serait pas mon ami, c'est un homme tordu. Mais l'appel de Jésus est sur lui. Il ne le sait pas, mais il dit, mais qui est Jésus ? Quand les gens commencent à se dire, qui est Jésus ? Je crois qu'ils sont appelés là. Quand on commence à dire, j'ai besoin de Jésus, c'est parce qu'il y a un appel, un cordage que Dieu tire. Jésus passe et il ne joue pas cache-cache. Quand on était enfant, on allait d'arbre en arbre. Et on jouait à cache-cache sur le chemin. C'est loin, ça. Jésus, il ne se cache pas pour se laisser désirer. Il passe là où on est. Il se fait voir. Il s'arrête et il nous appelle. Il sait ce que c'est qu'un arbre, Jésus. Parce qu'il est monté un jour dans un arbre. Lui aussi, tiens. Pour nous donner le salut. C'est l'arbre de la croix. D'arbre en arbre, on commence à se comprendre et Zachée dans l'arbre pour se cacher. Alors Zachée le reçoit et puis ça murmure dans la ville, ça murmure. Vous savez, il ne faut pas faire beaucoup de choses pour être critiqué. Zachée reçoit Jésus chez lui et tout le monde dit dans la ville, « Oh, Jésus, il est allé loger chez un homme pécheur, un truand professionnel. » Un malhonnête professionnel. Peut-être que Jésus a dormi dans le lit de Zachée. Quand j'allais chez mes grands-parents, quand je voulais faire la sieste, couche dans notre lit. Et peut-être que Zachée, Il a peut-être dit à Jésus, ben, « Dors dans mon lit, il est propre. » Et Jésus était là avec un escroc professionnel. Faire attention. Hein. Vous y seriez allé, vous ? Faut pas se mouiller trop. Mais Jésus se mouille. Il va tout au fond de l'abîme pour aller chercher les prisonniers, pour aller chercher ceux qui sont esclaves de leur malhonnêteté, de leur péché. Prisonniers de ces algues comme Jonas. Viens, il t'appelle. Et Bartimée et Zachée se sont convertis à Jésus-Christ qui leur a dit, viens, il faut que je demeure dans ta maison. Un petit peu plus loin à Jérusalem, un paralysé, probablement un problème de dos qui est devenu un problème de paralysie, handicap total, un homme qui n'a pas marché depuis 38 ans. Vous imaginez ? Je n'ai mal au dos. Mais cet homme qui est paralysé, il est tout seul, il est abandonné, il n'a pas d'amis. Au début, il y a des visites, puis plus le temps passe, moins on visite. Au début, on visite la veuve, puis avec le temps, les visites s'espacent. Et notre homme paralysé est là, sans amis et sans frères, ça m'étonne. Parce que les familles étaient nombreuses à l'époque, et on avait forcément des frères et des sœurs, et ces frères et sœurs n'apparaissent pas. C'est Jésus qui apparaît là et qui lui dit, « Veux-tu être guéri ? Appelle, appelle. Veux-tu être guéri ?» Un appel à sortir du mal, à sortir du découragement. Il y a des gens qui disent, « Jamais je guérirai, jamais je serai bien, jamais je serai comme les autres. » Un appel à vouloir, un appel à participer. « Lève-toi, veux-tu être guéri ? Lève-toi et marche. » Zachée aussi à participer. Regardez cet homme, il s'est levé. Et puis, au moment où il se levait, paf, paf, les jambes redeviennent bien. Zachée aussi, il a participé. Il a accueilli, il a mis la table, il a fait la cuisine. Il a accueilli Jésus, il s'est engagé. Il a réparé le mal, il a réparé le tort qu'il a fait à ses clients. Ça, c'est participer. Au début, quand on connaît Jésus, il fait tout. Il pardonne tout seul. Il nous sauve tout seul. Par notre foi, seul. Vous verrez sur les panneaux. Par la foi, seul. Jésus fait tout, tout seul. Puis après, on participe. On coopère. Quand j'étais très petit, avant de naître, je faisais rien. Je faisais rien du tout. Un paresseux. Je me laissais vivre, je me laissais porter par ma mère, elle me nourrissait, elle m'aimait, elle m'attendait, elle faisait tout. Bon, ça c'est, voilà, le salut c'est ça. Dieu fait tout, Dieu nous sauve. Puis après, bien quand j'ai quitté ma mère, quand je suis sorti du sein de ma mère, j'ai appris à manger, à me laver les mains, à participer, à lire, à écrire, à vivre. Voilà, il nous appelle à quelque chose. Pas à être des ballots, des paquets qu'on met sur le train, destination inconnue. Pas à être des paquets, mais à devenir des hommes et des femmes qui travaillent avec Dieu, qui aiment avec Dieu, qui apprennent de lui. Je termine. Appel de Zachée, appel d'Abraham. Appel du paralytique, appel de Bartimée, le dernier appel. On y va ? La tempête sur la mer de Tibériade. Et puis Jésus marche sur l'eau. C'est beau. Hein ? Et puis Pierre, qui est toujours un petit peu partant. Si c'est toi, on voit mal la nuit, c'est la nuit hein, quand même. C'est encore plus terrible la nuit.
Si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau.
Ouh. La folie de Pierre. Une belle folie, hein.
Ordonne que je marche sur l'eau. Jésus dit, viens. Pierre, il sort de la barque, ça tient bon. Deuxième pied, ça tient bon. Et il marche sur l'eau. À quoi pensait-il? À qui pensait-il? Quand il marchait sur l'eau, il marche sur le vide. Il marche sur la mort. Il marche sur rien. Il devait penser à sa femme, peut-être même à sa belle-mère, à ses enfants. Il devait penser à ses amis, à Pierre, à Jean, à Jacques, à Jean, etc. Mais il était dans la main de Dieu. Et quand Pierre, il entend la parole de Jésus, « Viens, l'appel !» Je pense que ça représente notre mort. Puis j'aime pas l'appeler la mort. Parce que c'est un passage. J'aime pas ce mot « mort ». Ça fait point final. Et quand Pierre, il marche sur l'eau, je pense que c'est nous qui marchons dans la main de Dieu pour aller dans la maison du Père. L'approche de la mort met notre vie à nu. Quand on est prêt de mourir, je pense, d'après ce que j'ai entendu, on réalise combien nous avons été orgueilleux, vaniteux, combien nous avons travaillé dans les choses secondaires, dérisoires, qui ne servaient à rien, combien nous n'avons pas aimé suffisamment, combien nous avons été hypocrites, ingrats, etc., etc. À l'approche de la mort, tout devient sensible. Il y a un pasteur qui a eu un jour l'idée, c'est pas mal, de faire un sermon comme si c'était son sermon une heure avant de mourir. On ne parle pas comme d'habitude. Si vous me disiez dans une heure tu es mort, qu'est-ce que tu dis? Ah, je révise mon sermon. Parce qu'il y a des choses qui ne servent plus, il y a des choses que je ne vous dis pas en ce moment et que je devrais vous dire. Enfin, bon. La mort met notre âme à nu. Mais je crois que la mort, c'est un appel de Jésus. Jésus dit dans l'Évangile, il nous dira ce jour-là, « Entre dans la joie de ton maître. » Alors, cette parole, il faut l'entendre. « Entre dans la joie de ton maître. » Derrière nous, il y a les enfants qui pleurent, les parents qui pleurent, il y a des amis qui pleurent parce qu'on est parti. Et Jésus dit, « Entre dans la joie de Jésus-Christ. » C'est donc qu'une grande joie nous attend. Il faut dire aux vivants, nous qui avons la foi, ne pleurez pas sur nous. Nous serons dans la joie du Christ. Et quand nous partirons dans son royaume, encore une fois, décidément, le Seigneur va nous appeler. Ah ben dis donc, ça n'en finit pas, votre histoire. Ben non, il va nous appeler. Jésus disait, c'est Jésus qui parle, c'est pas moi. Ceux qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de Dieu et ils ressusciteront. On sera mort et une voix, comme la voix pour Lazare, sœur, Lazare, sœur, une voix va se faire entendre, nous entendrons cette voix et nous sortirons, pas des tombeaux, c'est pas écrit, nous ressusciterons. On sortira pas du tombeau, ouvrez la porte, non. Nous serons transformés, ressuscités. Et là, nous entendrons encore une fois un appel, ça n'arrête pas. Le Seigneur nous dira sur son trône, « Venez, vous, les bénis de mon Père, venez. » Quel chemin! Entre le premier « Venez, venez à moi, vous tous fatigués, chargés. » Et le dernier « Venez, venez, vous, les bénis de mon Père. » et recevez le royaume que je vous ai préparé depuis la fondation du monde. La mort sera guérie. La blessure de la mort sera guérie. Parce que le péché nous a blessés à mort, mes amis. On dit, oh, le péché, c'est rien du tout. Ça nous a blessés, ça nous fait mourir, ça nous défigure, ça nous transfigure. Mais Jésus nous reprendra et nous guérira. Amen. Et nous montrera la beauté de son royaume. Pas pour nous dire, moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait des étoiles. Mais c'est pour nous dire surtout, voici ce que j'ai fait par amour pour vous. Quand on offre un bouquet à sa maman de fleurs, c'est pas, ou à sa femme, c'est pas pour dire, moi j'ai acheté des fleurs, oh attention. Mais c'est pour dire, je t'ai acheté des fleurs parce que je t'aime. Et le Seigneur nous dira, venez, prenez, c'est à vous, parce que je vous aime. On se retrouvera. Vous ne pensez pas que ce sera la fête. Nous serons assis et nous mangerons avec le Seigneur. Eh bien, en conclusion, 30 secondes, cet appel du Christ qui retentit dans tous les évangiles, cet appel, il commence aujourd'hui. Quand on vit des choses difficiles, chagrin, on a perdu beaucoup, on se démène, on a des échecs, on est maltraité, on est malmené. On est comme le fils prodigue, voyez-vous, Rembrandt, il a bien fait quand même. On est comme le fils prodigue, on a été prodigue, ça veut dire gaspillé, on a gaspillé notre vie. On est comme lui, le fils prodigue. Et puis, au fond du désespoir, le soir, surtout l'automne où le soleil baisse très vite, le soir, quand on réfléchit chez soi, dans sa maison, on se dit, mais enfin, où en suis-je? Je suis là tout seul. Le fils prodigue, c'est ce qu'il a fait. Il a réfléchi, il a dit, mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Mais où est-ce que je suis? Mais qu'est-ce qui se passe quand je pense que chez mon père, chez papa, les ouvriers, ils mangent du pain, et encore du pain, et encore du pain, puis ils n'ont pas faim. Et moi, je suis le fils de la maison, et je meurs de faim. Appel. Un appel qui résonne en nous. On chantait ce vieux cantique dans ma jeunesse. Cantique du réveil, on le chantait tous aux évangélisations. Je me souviens de ce cantique. Aujourd'hui, Jésus m'appelle. J'entends sa voix dans mon cœur. Qui le connaît? Pas beaucoup. Madame Leprat, et puis c'est tout. Aujourd'hui, Jésus m'appelle. J'entends sa voix dans mon cœur. J'ai résisté trop souvent à cette voix si fidèle. Parce que l'appel, il a retenti plusieurs fois dans notre vie. Puis on a dit, non, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas chrétien. Ouf, c'est pas être chrétien seulement, c'est être ami de Jésus. À cette voix si fidèle, ne résiste pas. Je prie le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ton appel qui surgit dans tous les jours de notre vie. Car chaque jour, tu nous dis, décharge-toi de tout fardeau, remets ton sort à l'Éternel, au Seigneur, et il prendra soin de toi. Tu nous dis, viens, venez, vous qui êtes chargés, fatigués, et un jour tu nous diras, venez dans mon royaume. Aujourd'hui, nous voulons te dire, Seigneur, décharge notre fardeau de peine, d'incompréhension de la vie. Que le mystère de ta parole se révèle à nous, que nous ne soyons pas ignorants, étrangers, insensibles ailleurs, fermés à cet évangile miraculeux, cet évangile unique de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen.